ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, amis de la Basse-Meuse, de Blégny, de Cherat, d'Herstal, sans oublier ceux qui nous écoutent même au-delà de nos frontières. Que chacun d'entre vous soit au bénéfice de ce moment de réflexion, de prière et d'édification dominicale, car nous ne sommes pas toujours en mesure de nous réunir dans notre petite chapelle. Cela nous oblige à rester prudents pour notre santé et le respect d'autrui. Néanmoins, nous restons unis en esprit et en vérité par Jésus-Christ. Pour débuter ce culte, je voudrais remettre par la prière ce moment de communion fraternelle dans les mains de notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Père Céleste, ton nom est trois fois saint. Tu es au sommet de la pyramide de notre vie et grâce à ton Fils Jésus, tu as prouvé l'amour que tu accordes à tous tes enfants. Nous te louons en communion avec tous nos frères et sœurs, sauvés par ta grâce, ainsi que tous les amis d'ici et d'ailleurs. Bénis nos communautés respectives qui suivent ta parole avec fidélité et amour. Bénis, Seigneur, nos malades, ceux et celles qui sont seuls et dans le deuil. Apporte à chacun d'eux une bénédiction spéciale. En esprit, dans une communion fraternelle, avec comme support la technologie d'Internet, qui est un fruit de l'intelligence que tu nous as octroyé. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Eh oui, le temps passe vite. Deux choses positives néanmoins ressortent de ce virus. Premièrement, le confinement nous a appris qu'aucune somme d'argent et aucun succès ne vaut plus que le temps passé avec sa famille. Et deuxièmement, vu la gravité de cette pandémie, je m'aperçois qu'une compétition se manifeste crescendo pour trouver une solution médicale afin de contrer ce virus qui s'est installé dans le monde. Mais il faudra encore de la patience. Je vous invite à lire le psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront. Éternel, en entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Jusque-là, la lecture de ce magnifique psaume. Quand nous sommes en mesure de louer Dieu de tout notre cœur, le monde est témoin de notre joie et de notre gratitude. Nous avons tous, du moins ceux qui se confient en l'amour de Jésus-Christ, constaté qu'il est toujours fidèle à sa parole. Si l'Éternel n'a pas épargné son propre Fils, comment pourrait-il nous priver de ses bontés? Si Dieu fortifie nos âmes en vue de supporter l'épreuve d'une pandémie, de résister aux tentations de désobéissance et d'accomplir notre devoir. Si Dieu nous fortifie dans notre foi et que nous restons en communion avec Christ pour que nous soyons patients, nous ne pouvons que le remercier. Malheureusement, nous sommes tous imparfaits, pécheurs, et nous devons nous remettre en question chaque jour. C'est ainsi que nous demandons humblement à Dieu de pardonner nos fautes, nos manquements, nos chutes, afin que nous soyons, que nous lui soyons agréables. Parfaits, nous ne le serons jamais. Seul Jésus-Christ l'était, en plus porteur de la sagesse, même de l'intelligence. Il a vécu parmi les hommes et a souffert comme nous, lorsqu'il s'est blessé, lorsqu'il a été tenté. La seule différence avec nous, c'est qu'il savait ce qui allait lui arriver, car il connaissait les Écritures. Cela ne l'a pas empêché d'aimer et pardonner les hommes qui allaient le torturer et le trahir. Avouons que nous aurons difficile de faire de même. À cet égard, demandons-lui pardon. Prions. Oui, Seigneur, nos imperfections, nos manquements doivent t'attrister. Loin de nous vanter de quoi que ce soit, je m'associe au roi David sur les versets que nous avons écoutés. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Et quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie, tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Oui, Seigneur, ta bonté dure toujours, et te demandons d'oublier nos offenses, comme nous oublions celles des autres. Je m'associe à Timothée qui a écrit « Mon enfant véritable dans la foi ». Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La paix peut avoir plusieurs sens. Il y a la paix du cœur, la paix entre les hommes, la paix de l'esprit. Jésus-Christ peut offrir tout cela, mais la paix est indissociable de la compassion et de la grâce offerte gratuitement par Jésus-Christ seul. Je vous laisse découvrir le Notre Père, interprété en wallon par une chorale de Stavelot. Et vous savez tous que je suis un grand amateur de folklore, mais aussi de la langue wallonne, et ici, je m'en voudrais de ne pas vous faire écouter ce magnifique Notre Père. Aujourd'hui, le culte sera centré sur l'actualité et je vais vous parler de progrès technologique et qui m'a fortement impressionné. L'ordinateur quantique, non pas celui qui stocke sur un PC des quantiques religieux, mais bien d'une toute nouvelle génération d'ordinateurs issus de la science atomique et de ses dérivés. Je donnerai à cette prédication le titre de « Sagesse et intelligence de l'homme, où êtes-vous ?» Mais je voudrais, avant de vous parler de technologie avancée, partager en tout cas avec vous un passage de l'Ancien Testament consacré à la sagesse et à l'intelligence. Je trouve ces merveilleux versets dans Job 28, versets 20 à 28. Je cite « D'où vient donc la sagesse ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle, c'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous son ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Puis il a dit à l'homme, « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Fin de citation. Aujourd'hui, les scientifiques sont tous lancés dans une course effrénée pour trouver une solution dans le but d'éradiquer le COVID-19. C'est ainsi que nous sommes entrés, depuis la naissance de ce virus, dans une nouvelle révolution sociétale, économique, politique et surtout technologique, où les scientifiques, la pharmacopée et la chimie collaborent étroitement à l'élaboration d'un remède ou d'un vaccin. Pour illustrer les progrès générés depuis ces quelques années, je voudrais vous parler de deux nouvelles technologies apparues récemment. La première technologie, c'est un ordinateur en service depuis janvier 2019, dénommé « ordinateur quantique », et qui vient d'être mis au point, vu l'ampleur des enjeux financiers, par des grandes sociétés qui ont les moyens financiers nécessaires, comme la NASA, IBM ou Google. Ce progrès ouvre des nouvelles perspectives sur le monde médical et moléculaire. En fait, nous entrons de plein pied dans la structure atomique de la matière, liant ainsi l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais les ordinateurs quantiques sont beaucoup plus complexes et bien plus puissants, les rendant capables d'effectuer des tâches incroyablement complexes, comme par exemple découvrir de nouveaux médicaments, analyser des données de manière intensive ou encore créer des codes dits incassables. Accrochez-vous bien, ce nouvel ordinateur qualifié de quantique est capable de réaliser des calculs complexes en 200 secondes, alors qu'un ordinateur le plus puissant actuel mettrait 10 000 ans de calcul pour obtenir le même résultat. En effet, ces ordinateurs quantiques pourront traiter un plus grand nombre de données et complètement transformer dans le futur notre société ainsi que le monde industriel économique. Ils pourront par exemple rationaliser, révolutionner les systèmes aérospatiaux et militaires, calculer les facteurs de risque pour réaliser de meilleurs investissements financiers ou encore peut-être trouver un traitement curatif contre le cancer ou d'autres maladies. Sa puissance est phénoménale. C'est tellement poussé que ses principes sont étroitement liés à l'atome, à ses protons et ses neutrons, établis par la théorie de la relativité d'Einstein, qualifiée ce jour de théorie quantique. Donc, l'infiniment petit côtoie l'infiniment grand. Cette machinerie quantique, géante, de 2 mètres sur 2, doit fonctionner sous le zéro absolu, c'est-à-dire à moins 273 degrés, placé sous vide dans un environnement exempt de vibrations et de radiations électromagnétiques. Et enfin, la seconde technologie mise au point, c'est un microscope quantique, issu de la même théorie que l'ordinateur quantique. Il permettrait de visualiser des structures atomiques telles que les nanoparticules. Pour comprendre ce qu'est la dimension d'une nanoparticule, c'est 1 milliard de fois plus petit que le mètre. Nous pouvons ainsi visualiser une dimension d'un atome, comme par exemple l'atome d'hélium, qui mesure 1/10 de nanomètre. L'infiniment petit devient visible. Et avec l'ordinateur quantique, des perspectives de recherche fabuleuses s'offrent à nous dans un avenir assez proche. Voilà, fin du cours théorique et technique. Avouons que l'intelligence est tout de même admirable chez certains hommes. Mais est-ce une raison valable pour nous vanter de notre intelligence? Nous vanter de réaliser de telles prouesses? Pouvons-nous nous octroyer des titres pour nos découvertes? Qui devrions-nous féliciter? Ne faudrait-il pas aussi penser à un prix, à un titre de gloire pour l'organisation d'une ruche, d'une termitière, pour la gestion d'un chef de meute chez les loups, pour la parfaite organisation du cosmos et de sa structure? Car là aussi nous voyons une copie conforme de l'infiniment grand avec l'infiniment petit qu'est l'atome. Mais Job donne une définition de l'intelligence très différente de la nôtre. Nous lisons que Dieu, lorsqu'il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondements et l'a examinée. Donc, c'est la sagesse qu'il a fondée et examinée en tout premier lieu. La sagesse, qui est la base de toute vie, consiste à avoir crainte du Seigneur, et elle vient de Dieu. L'homme a l'intention d'envoyer sur Mars une équipe de scientifiques pour y installer une base, sans être capable d'avoir tenté auparavant d'y installer un exemplaire sur la Lune. La question est, sans enlever le bénéfice de la recherche scientifique, avons-nous placé notre sagesse ou notre intelligence en priorité? Où l'avons-nous placé? Je vous laisse le soin d'y répondre. Notre industrie automobile construit des voitures puissantes pouvant atteindre les 300 km/h, alors que nos routes, en moyenne, nous ne dépassons pas les 50 km/h. La question est également, est-ce le fruit de la sagesse ou de l'intelligence? Job ensuite se pose la question, où est l'emplacement de l'intelligence? La réponse qu'il donne aux hommes, c'est s'éloigner du mal. Voilà en quoi consiste l'intelligence. En résumé, la première qualité de l'intelligence doit être au service du bien. En ce qui concerne la vitesse automobile, le 300 km/h n'est pas au service du bien. Donc, ce n'est pas un fruit de l'intelligence. La sagesse aurait voulu limiter la vitesse maximum à 120-130. Vitesse maximum autorisée chez nous et en France. Mais les retombées techniques de ces bolides vont bénéficier à la sécurité de nos voitures actuelles. Et ça, je n'en disconviens pas qu'il en soit question de freins, des airbags, mais pas de la vitesse. Quant à savoir où se trouve l'intelligence, il faut d'abord passer par la sagesse. Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition, dit l'Écriture, c'est-à-dire le séjour des morts et la mort, nous disent, nous en avons entendu parler. Ce verset fait allusion à Jésus qui est descendu dans le séjour des morts juste avant sa résurrection. Le séjour des morts dit, nous en avons entendu parler. De quoi parle-t-il? De la sagesse personnifiée en Jésus? Personne ne sait, car elle est cachée à tout être vivant. C'est ainsi que l'intelligence est une conséquence de la sagesse, et non l'inverse. Car il prévient l'homme. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est se rapprocher du bien. Ne confondons pas intelligence et instruction. Pour être intelligent, il ne faut pas faire des études. Car comme défini, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Tandis que pour être instruit, il faut se former et étudier. Nous connaissons tous des personnes très instruites, mais pas du tout intelligentes. Nous connaissons également l'inverse, des personnes non instruites et capables, par leur intelligence, des plus belles réalisations. Dans Proverbes chapitre 8, verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix ?» L'intelligence est au service de la sagesse. La sagesse mentionnée dans ce texte est personnifiée en Jésus-Christ, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Elle est la personne, la référence et la parole dans notre vie et notre cœur. L'homme a réalisé pas mal d'inventions qui l'ont finalement conduit à sa propre ruine. Dieu a cependant trouvé un remède pour notre salut. Le roi Salomon en est le plus bel exemple. Je lis dans 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 12. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni l'amour de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. » De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Les hommes les plus sages et les plus prévenants ne sont vraiment efficaces que lorsqu'ils sont convaincus de leur propre faiblesse, sans éprouver la moindre convoitise. Salomon prie à Dieu de lui donner quoi ? Mais la sagesse. À notre tour de demander d'abord la sagesse comme décrit dans Jacques 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est ainsi que cette sagesse nous aidera à grandir dans notre ministère pour lequel nous sommes tous, sans exception, appelé. Dieu acceptera principalement ceux qui préfèrent les bénédictions spirituelles plutôt que les biens matériels que l'on peut obtenir qu'ici-bas. La prière de Salomon était capitale, il obtint même plus. Ce qu'il avait demandé, Dieu lui a donné la sagesse, une sagesse qu'aucun autre prince ne put avoir. Mais Dieu lui a également donné la richesse et l'honneur. L'Éternel rejette la fierté et l'arrogance, les mauvaises voix, les mensonges, ainsi que tous les hommes peu disposés à entendre en toute humilité ses saints commandements. La véritable piété est le meilleur soutien que nous puissions obtenir pour nous rapprocher de Jésus-Christ lorsque nous traversons des épreuves comme aujourd'hui. La lumière qu'est Christ nous aidera à éclaircir notre chemin en nous apportant la sagesse. La sagesse divine rend réellement heureux tous ceux qui la reçoivent dans l'amour de Jésus-Christ. Recherchez-la en priorité, au plus vite, de tout votre cœur, et l'intelligence vous sera accordée. Les personnes qui aiment Christ sont celles qui ont découvert sa tendresse et qui possèdent son amour en leur cœur. Telle est la raison de leur bonheur spirituel. Elles sont heureuses ici-bas et savent qu'elles vivront la félicité éternelle dans l'au-delà. Non pas peut-être, mais avec certitude. Christ étant la sagesse, l'intelligence viendra après. C'est ainsi que l'on peut lire dans Proverbes 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Encore une fois, la sagesse est mise en premier plan. dans la progression fulgurante des progrès scientifiques. La question est, nos actes, nos intelligences, sont-elles toujours au service de la sagesse? Cette pandémie a démontré 1000 fois la limite entre la sagesse et l'intelligence. On s'est montré sage, sans intelligence, et parfois l'intelligence intellectuelle a pris le pas sur la sagesse. Tous les scientifiques s'accordent à confirmer qu'ils ne voient pas, pour l'instant, une application pratique de ce calculateur quantique. Ils ont construit une machine extraordinaire, tellement performante et qui dépasse même notre imagination. Mais paradoxalement, ils ne savent toujours pas, à ce jour, à quoi elle va servir concrètement. Les concepteurs proposent ces services par distance, à titre expérimental. Les implications bien concrètes viendront plus tard. Le verset suivant nous donne une réponse. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. L'intelligence affermira la construction de la sagesse. Donc, les scientifiques ont construit une machine tellement sophistiquée que personne, aujourd'hui, ne saurait dire ce qui va en découler, car elle est issue non pas de la sagesse, mais de l'intelligence. La technologie médicale actuelle détecte par imagerie, en couleur et en 3 dimensions, les maladies les plus rares, mais n'ont pas de remède pour la soigner. Le Covid-19 en est le plus bel exemple. L'intelligence doit passer au second plan. Seule la sagesse est prioritaire. L'apôtre Jacques nous donne une belle définition dans son chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Bizarrement, c'est la sagesse qui passe toujours en premier lieu. Quand le physicien Julius Robert Oppenheimer a mis au point le contrôle de la fission nucléaire, il a mis son intelligence avant la sagesse, car il était loin de se douter des dégâts qu'allait faire sa première expérience nucléaire. C'est ainsi qu'il est devenu le père de la première bombe atomique lancée sur Hiroshima. C'est ainsi que Luc nous conseille de bien calculer la dépense de nos projets. Luc 14, versets 28 à 30. Je cite, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. » C'est une belle application de la sagesse. Je terminerai ce message pour vous proposer une dernière courte lecture dans Proverbe 7, verset 4. Je cite, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie. » La sagesse est le lien filial indispensable, tandis que l'intelligence n'est seulement qu'une amie. Ce qui signifie que la sagesse offerte par le lien du sang de Jésus-Christ dans notre vie est indispensable. Car il est le représentant officiel de la sagesse même, tandis que notre intelligence est une amie, une confidente, mais peut aussi nous lâcher, nous attrister, nous tromper. Et jamais la sagesse en Jésus-Christ ne nous lâchera. Que le Seigneur nous garde dans sa sagesse et nous donne l'intelligence de faire le bien autour de nous. Prions. Béni soit notre Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Seigneur, merci de nous avoir donné des hommes et des femmes qui ont fait avancer la science afin de mieux vivre. Que cette science soit toujours le fruit de ta sagesse et de ton amour pour le bien de l'humanité. Apporte-nous paix et sécurité et guide ceux et celles qui sont sur le pont pour trouver une solution aux graves problèmes de notre société, que ce soit la santé, l'éducation, l'économie, la géopolitique, l'écologie, bref, tout ce qui touche de près ou de loin au bonheur de l'être humain en général. Nous te remettons tous nos problèmes au pied de ta croix et te sommes reconnaissants pour tout ce que tu feras à l'avenir. Que ton nom soit loué pour toujours. Amen. Avant de vous parler des annonces et ensuite clôturer notre culte, nous écouterons « Garde courage ». C'est un chant de Christine et Tonino. Ce morceau est un encouragement à garder la foi malgré les circonstances que nous vivons. Je vous retrouve aussitôt après.
Avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie. Frayé pour toi, garde courage. m'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage.
Quelques annonces. Rendez-vous chaque mardi soir à 19h pour partager chacun chez soi un moment de prière en communion avec tous les frères et sœurs de l'Église. Vous pouvez suivre les intentions de prière sur la feuille que Jean-Luc nous a transmise. Le consistoire tient à préciser qu'il fait le maximum pour être attentif aux difficultés de chacun. N'hésitez pas à nous les partager, car nous sommes conscients que nous passons tous des moments qui sont inscrits dans l'histoire. Je vous invite à visiter nos sites internet respectifs de Blégny et de Herstal, et merci à ceux qui participent à la vie financière de la communauté en versant librement la somme que le Seigneur leur met à cœur sur le compte de l'Église, dont le numéro est repris sur notre site web. Avant de clôturer ce culte virtuel et de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, je voudrais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine sous le regard et au service du Seigneur. Suivant la formule consacrée, prenez bien soin de vous et des autres. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.